franceinter.fr.
Six à 10% des femmes enceintes prennent des antidépresseurs en France. Et voilà cette étude canadienne publiée aux États-Unis dans la revue JAMA, reprise partout dans la presse ces derniers jours, et qui nous dit ceci: la prise d'antidépresseurs augmenterait de 87% le risque de survenue des troubles autistiques. Alors que faut-il penser de cette statistique pour tirer les choses au clair? On reçoit aujourd'hui par téléphone Elisabeth Éléphant. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes médecin embryologiste, responsable du CRATS, c'est le centre de référence des agents tératogènes. Et puis également en studio avec nous, notre médecin généraliste Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Elisabeth, bonjour Mathieu.
Dominique, justement, il s'agit d'un gros travail statistique mené sur 145 000 enfants. Comment faut-il comprendre ce résultat? Une augmentation du risque de 87% d'avoir un enfant autiste avec la prise d'antidépresseurs pour les mamans enceintes?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, le chiffre, qu'est-ce qu'il veut dire? Et d'autre part, est-ce que ce chiffre est crédible? Est-ce qu'il correspond à une réalité? Quand on dit qu'on augmente de 87%, ça veut dire que si le risque est de 1%, il passe à 1,87% et non pas à 88%.
C'est ça, et c'est ce qu'on entend d'ailleurs.
Et on comprend
quasiment
88% qu'on frôle les 100%. Donc ouais. Déjà, c'est pas du tout ça. Et ensuite, comme on va le voir, est-ce qu'il y a une réalité ou est-ce qu'on est encore dans ce phénomène de stats à la con, de liens statistiques qui n'ont pas de réalité, qui n'ont pas de lien de cause à effet, qui correspondent juste à une observation et dont on ne peut tirer strictement aucune conclusion?
Elisabeth Éléphant, vous êtes responsable du centre de référence qui édite les conseils de prescription. Quelles étaient vos recommandations au sujet des antidépresseurs pendant la grossesse?
Alors actuellement, il faut prendre en compte déjà la réalité de la pathologie qui, comme vous l'avez dit, concerne environ 10% des femmes enceintes. Et selon les pays où on suit l'évolution de ces patientes en cours de grossesse, la moitié d'entre elles environ seraient traitées par des antidépresseurs quels qu'ils soient. Vous savez qu'il y a deux grandes classes d'antidépresseurs actuellement sur le marché, les tricycliques qui sont les plus anciens et les IRSS qui sont les plus récents. Donc la moitié environ de ces patientes sont soignées de façon médicale en cours de grossesse. Ça veut dire aussi que celles qui ne sont pas soignées et qui relèveraient d'une prise en charge thérapeutique, qu'elles soient médicamenteuses ou non, ont un risque également d'avoir des répercussions fétales si cette pathologie, qui est une réelle pathologie, n'est pas prise en charge. Alors ici, on a affaire à une pathologie de l'enfant dont l'incidence est en explosion dans les pays industrialisés actuellement, à la fois vraisemblablement par une réelle augmentation de ce type de troubles chez les enfants qui sont passés de la définition très fruste qu'on avait auparavant des autistes, aux troubles envahissants du développement et maintenant à un élargissement des symptômes sous le type nosologique de troubles du spectre de l'autisme. Ces pathologies sont peut-être en augmentation et les chercheurs sont en train de chercher précisément les causes qui expliquent cette inflation de cette incidence. C'est donc entre autres des causes qui pourraient être prénatales et pas seulement postnatales. Et ceci s'applique à d'autres types de pathologies qu'on observe en inflation chez les enfants. Alors le mécanisme physiopathologique qui fait chercher la prise d'antidépresseurs de la classe des IRS chez ces femmes enceintes tient essentiellement au fait qu'on a observé chez des enfants autistes des modifications de la sérotonine dans un certain nombre de cellules du sang, c'est-à-dire dans les plaquettes essentiellement, ce qui pourrait sous-tendre un mécanisme physiopathologique d'imprégnation sérotoninergique qui pourrait être le mécanisme qui, entre autres, pourrait expliquer ces troubles. Et du coup, évidemment, la prise d'antidépresseurs étant en égale inflation parmi la population de femmes enceintes, c'est une question de mise en rapport de ces deux phénomènes qui est étudié actuellement. Alors cette étude, si vous voulez mon avis sur cette étude, le montage est relativement classique. Cette équipe canadienne a l'habitude de travailler essentiellement sur des croisements de fichiers dans des cohortes qui sont établies au Québec. Fichiers qui consistent à, d'un côté, analyser les prises médicamenteuses remboursées par des femmes dans une période qu'on détermine comme étant celle de leur grossesse, et parallèlement des carnets de santé, des diagnostics d'hospitalisation d'enfants qui ont des troubles recherchés, c'est-à-dire en l'occurrence là, des troubles autistiques au sens de plus en plus large qu'on attribue sur le plan pédopsie à ces pathologies. Et le croisement de ces fichiers donne effectivement, à la lumière de l'étude qu'on a actuellement, une augmentation potentielle de l'association et significative entre la prise d'antidépresseurs et l'apparition de ces symptômes chez ces enfants.
Mais ça veut dire quoi, Elisabeth Éléphant, qu'il y a des liens de cause à effet direct qui sont démontrés ou pas?
Non. Pour le moment, il n'y a pas de lien de cause à effet direct qui soit montré. Ça veut dire qu'il y a des présomptions sur le fait que des femmes qui sont dépressives et qui prennent ce type de traitement pourraient avoir, selon un mécanisme qui n'est absolument pas élucidé pour le moment, une prédisposition à avoir dans leur descendance des enfants porteurs de ce type d'anomalie. Mais il est bien évident que pour pouvoir affirmer le lien de causalité et pas seulement l'association, le lien de causalité, c'est évidemment la mise en perspective directe de la prise d'une substance A et des conséquences chez les nouveau-nés. Ceci doit passer par le truchement d'une analyse qui est très fine et qui doit prendre en compte un certain nombre de facteurs. Certains facteurs de confusion qui sont des facteurs qui, a priori, prédisposent certaines femmes à avoir des enfants qui auraient des pathologies de cette nature, que sont des pathologies familiales, maternelles, paternelle, dans la fratrie également, des troubles psy, quels qu'ils soient, légers ou importants, ou des retards mentaux, doivent être pris en compte.
Allez, on passe la parole à Dominique Dupagne.
Oui, en fait, pour bien reformuler ça, on ne sait pas si c'est le fait d'avoir pris un antidépresseur qui conduit au fait d'avoir peut-être un risque supérieur d'avoir un enfant autiste, ou si c'est le fait d'avoir un profil qui prédispose aux enfants autistes qui va conduire à prendre des antidépresseurs. Il y a un biais absolument monstrueux dedans. C'est comme si on disait que les gens qui prennent des anticancéreux ont un risque de cancer supérieur, si vous voulez. Il y a un recrutement qui fait que ce genre d'études, et on va en parler peut-être, j'espère qu'on pourra le dire, ne devrait pas arriver dans le grand public. En fait, c'est des choses qui permettent de faire des hypothèses, de travailler entre chercheurs, mais balancer des informations brutes comme ça, mal digérées, mal mises en valeur, et paniquer les milliers de femmes qui ont besoin de se soigner. Parce que comme l'a dit Madame Éléphant, la dépression, c'est une maladie grave, qui peut aussi altérer la grossesse, et qui peut aussi, on n'a pas bien dit ce que c'était que l'autisme, provoquer chez l'enfant un trouble de la communication, de la socialisation, ou du mouvement stéréotypé, parce que c'est ça, grosso modo, le spectre autistique. Et donc, il y a un risque d'avoir un effet totalement contraire, c'est-à-dire de provoquer de la maladie au lieu d'en épargner.
Oui, et avec le danger d'arrêter les traitements pour
bien sûr,
la dépression.
Parce que quand vous lisez les unes des journaux, là, vous êtes paniqué, vous êtes une femme enceinte, vous êtes antidépresseur, vous dites, faut que j'arrête, alors que ce n'est pas vrai.
Édouard Jantas, qu'est-ce que vous pensez d'une telle publication?
Là, ça pose vraiment la question du rapport entre la science, la production de données et puis l'impact média. Et du coup, actuellement, il y a la course à la publication, aux grandes revues qui ont de l'impact, qui essayent d'avoir le maximum d'impact auprès des médias pour que ça soit repris, il y a des embargos. Ouais. Et là, ça pose vraiment une question de responsabilité.
C'est un exemple intéressant pour voir le danger d'une telle publication auprès des femmes enceintes prenant des antidépresseurs.
La médiatisation, la publication, elle n'est pas critiquable. Oui. C'est la médiatisation de la publication qui pose problème.
Pourtant, Dominique Dupagne, Annick Bérard, qui est l'auteur principal de ces travaux, elle pense que c'est important d'informer et de communiquer. Écoutez-la dans une interview donnée hier.
En fait, le but de l'étude n'est pas d'inquiéter les femmes, n'est pas encore moins de les faire sentir coupables, mais bien de les rendre responsables, de leur donner de l'information, de leur donner des outils pour qu'ils puissent vraiment se prendre en main, prendre des décisions éclairées, évidemment, elles, mais également leurs professionnels de la santé qui en ont bien besoin.
Élisabeth Éléphant, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
Alors en fait, il faut tout de même replacer une chose dans un contexte général, c'est que c'est une publication qui survient après de nombreuses publications qui datent de 2011. Ça n'est pas la première, hein. Et il faut se garder de jeter aux orties cette étude au titre qu'elle aurait des biais. D'autres études sont parues, elles ont des résultats qui peuvent être similaires pour certaines et qui sont contraires pour d'autres. Donc il faut prendre le temps de réfléchir et d'analyser tous les facteurs de confusion de tous ces types d'études. Il n'y a pas un type d'étude qui conduirait vraiment vers la vérité. C'est un faisceau d'arguments qui va nous permettre de déterminer ce point. Maintenant, il est évident que c'est une maladie, que si on doit soigner une femme enceinte, il faut lui expliquer les tenants aboutissants. Actuellement, il n'y a pas de raison d'alerter les patientes qui sont en cours de grossesse et qui prennent ce genre de traitement sur la réalité de ce risque.
Est-ce qu'il est important pourtant de laisser le choix à la patiente d'être informée de cette manière et de peut-être ne pas comprendre tout simplement, c'est des résultats universitaires, ce n'est pas une communication?
Alors, à l'heure actuelle, il est bien évident que le passage sans filtre entre les publications qui sont destinées aux spécialistes versus le grand public sont de plus en plus légion. Il nous pose de plus en plus de problèmes pour essayer de rectifier l'analyse de ces données et ça nous pose effectivement, en termes de prise en charge, de grosses difficultés d'interprétation et de mise en danger d'un certain nombre de patients. patiente, tout à fait réel, tout à fait préjudiciable.
Jean-Taz, pour terminer.
Oui, je pense qu'une des solutions pourrait être la règle que les chercheurs ou les médias reprennent simplement des résultats de méta-analyse, où on compile un ensemble de données, on fait 90, 100 données, et on voit à la fin, pour pas que le public soit balancé entre les études qui montrent le lien, les études qui montrent pas le lien, et tout un tas de disciplines a le même problème. Et je trouve que quand on est dans une perspective de diffusion et de communication auprès du grand public, en fait, on devrait se limiter aux résultats de méta-analyse. Méta-analyse, hein, c'est des analyses sur des analyses qui permettent justement de supprimer et de le bruit, en fait, parce qu'on aura toujours quelques études qui vont montrer des effets contraires.
Dominique, pour terminer.
Et on a vraiment l'exemple de deux chercheurs qui ont des intérêts divergents. Il y en a une qui cherche à faire parler de ses travaux et à avoir une certaine publicité sur sa recherche, ce qui est normal. Et l'autre qui essaye de conseiller les médecins pour soigner les gens. Et donc, toutes les deux sont des chercheurs et vous voyez que leur avis est très différent suivant les objectifs qu'elles poursuivent.
Merci beaucoup en tout cas, Elisabeth Éléphant, pour votre éclairage ainsi que Dominique Dupagne. Merci Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, deux chambres secrètes et scellées ont été identifiées sous les ruines d'un des plus célèbres temples aztèques, le Templo Mayor à Mexico, et les archéologues ont bon espoir qu'il s'agisse de la tombe perdue d'un roi aztèque. En explorant le mystérieux tunnel de plus de 8 mètres de long découvert en 2013, les chercheurs avaient en effet déjà décelé une énorme dalle de 3 tonnes qui cachait un espace rempli d'offrandes précieuses et macabres, laissant présager qu'il s'agissait d'un complexe funéraire. Les fouilles reprennent début 2016, le voile de cette nouvelle intrigue devrait donc être rapidement levé. Les microbes, meilleurs amis de la police scientifique, des chercheurs américains ont réussi à prouver que les microbes pouvaient révéler l'heure de la mort, ainsi que l'endroit précis où a été déposé un cadavre. En étudiant des cadavres de souris ou d'humains en décomposition, ils se sont aperçus que la population microbienne apparaissait toujours de la même manière. Cette régularité des microbes vaut pour tous les types de sols et par toutes les saisons. Et puis on termine en image avec la NASA qui vient de publier une nouvelle carte composite d'une des lunes de Saturne, Titan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ressemble vraiment à notre Terre, généralement masquée par une épaisse couche nuageuse. L'astre, photographié par l'instrument infrarouge VIMS, révèle un paysage parsemé de collines, de rivières et de lacs. Et c'est à découvrir sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré.